Vous écoutez
RMC.
7h sur RMC et RMC Story à la télé.
RMC, Apolline Matin.
Bon réveil à tous. Tout de suite, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des tracteurs ce matin au pied de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées. Les agriculteurs en colère sont à Paris malgré l'interdiction de manifester. Après la neige, le vent, avis de tempête sur un large quart nord-ouest en vigilance orange, alerte rouge dans la Manche avec des rafales à plus de 160 km/h attendues dans le nord du département. Et puis vous entendrez dans ce journal le témoignage de Christine, 72 ans, cambriolée et violée chez elle, son agresseur, un SDF sous OQTF de 32 ans, a été interpellé.
Les agriculteurs de la coordination rurale à Paris ce matin.
Ils ont bravé l'interdiction de se rassembler dans les rues de la capitale, déterminés à rappeler leur colère contre la gestion de la dermatose nodulaire par le gouvernement, opposé aussi à l'accord avec les pays du Mercosur que l'Union européenne espère signer demain. Une petite dizaine de tracteurs a pu se rendre au cœur de la nuit au pied de la Tour Eiffel. D'autres ont réussi à gagner les Champs-Élysées ce matin autour de l'Arc de Triomphe. En direct ce matin, notre envoyé spécial Romain Houg avec une cinquantaine d'agriculteurs arrivés très tôt ce matin sur place.
Oui, ils sont arrivés vers 4h30, 5h du matin et l'image est plutôt saisissante. Il y a cette quinzaine de tracteurs postés vraiment au plus près de l'Arc du Triomphe sur la place de l'Étoile, une place désormais bouclée par les forces de l'ordre présentes en nombre. Ils viennent d'un peu partout en France, en majorité du sud-ouest, de Haute-Garonne, de la Haute-Vienne. Certains sont même partis dès le début de la semaine pour rejoindre à bord de leur tracteur la capitale. L'idée, c'est de se faire entendre, de se rapprocher au plus près des institutions pour faire passer leur message. Écoutez, José Pérez, il est le président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne.
Monter à Paris, monter à la Tour Eiffel, c'était symbolique, quoi. Les agriculteurs sont vraiment en souffrance et ils sont prêts à tout pour s'en sortir, quoi. Donc, et si monter à Paris, ça peut les permettre de trouver des solutions et ça peut permettre d'être entendus. Mais voilà, c'est pour ça que les agriculteurs sont là aujourd'hui. On veut qu'il y ait une réponse.
Des réponses sur la gestion de la dermatose nodulaire, sur le Mercosur. Voilà ce qu'ils attendent du gouvernement. Quant au reste de la journée, pour l'instant, il est très incertain. Il n'y a pas vraiment de plan. Ce que me disait José Pérez, c'est qu'il y a plusieurs centaines de tracteurs qui convergent en ce moment vers la région parisienne. Certains sont empêchés d'accéder à Paris par les forces de l'ordre. L'objectif principal, c'était de réussir vraiment à se rapprocher au plus près de l'Arc de Triomphe, dans le calme. C'est chose faite et pour eux, c'est déjà une première victoire.
Romain Houg en direct donc de l'Arc de Triomphe. Notez que dans une grosse demi-heure maintenant, Karine Duc, qui est la coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne et qui est présente autour de ces tracteurs en haut des Champs-Élysées, sera en direct avec nous sur RMC. Il est 7h03.
Le vent succède à la neige. La tempête Goretti va déferler sur une bonne partie du nord-ouest. Alerte rouge dans la Manche pour la nuit prochaine avec des rafales à plus de 160 km/h. C'est le plus haut niveau d'alerte, l'alerte rouge. 29 autres départements sont eux en vigilance orange. Île-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Et les communes de ces régions de s'organiser à l'approche de la tempête, Alfred Orange.
À commencer par Fécamp, en Seine-Maritime, où les rafales pourraient atteindre les 120 km/h et les vagues dépasser les 5 mètres. Le maire David Roussel multiplie les arrêtés pour cet après-midi.
C'est la fermeture de nos parcs et jardins et d'interdire également la circulation à proximité du front de mer, de la digue promenade, et d'évacuer les véhicules qui sont à proximité du front de mer pour éviter tout accident.
Dans le Finistère, la ville de Morlaix ferme aussi square et cimetière dès aujourd'hui, redoutant des chutes d'arbres, une prudence qui s'étend aussi au train. La SNCF annonce la suspension de toute circulation ferroviaire en Normandie dès ce soir et jusqu'à demain. Même précaution dans les Hauts-de-France où aucun TER ne circulera demain matin. Mesure prise pour garantir, je cite, la sécurité des voyageurs et du personnel. La SNCF précise dans le même temps que tous les usagers touchés pourront se faire rembourser ou échanger leurs billets sans frais.
Et ce matin, trois départements sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas, les Deux-Savoie et le Vaucluse. On en vient à cet homme interpellé dans les Yvelines, soupçonné de viol et d'au moins 6 cambriolages. Un SDF de 32 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, confondu par son ADN retrouvé au domicile de sa dernière victime le mois dernier. Christine, 72 ans, elle a choisi RMC pour témoigner ce matin au micro de Julie Brault.
Le visage creusé par la fatigue, Christine garde les yeux rivés sur sa porte-fenêtre. C'est par là que son agresseur s'est introduit chez elle avant de la projeter sur le sol.
C'était quelqu'un de très violent, ça je vous le confirme. 3 semaines après, c'est toujours très, très compliqué. C'est encore très frais.
Séquestrée, ligotée, puis violée, la retraitée de 72 ans a vécu un véritable calvaire pendant de longues minutes.
Pour l'instant, c'est le soutien de mes enfants et de mes amis qui me permettent de tenir le choc.
Malgré de nombreuses séquelles physiques et psychologiques, la septuagénaire se dit aujourd'hui soulagée depuis qu'un homme de 32 ans, interpellé lundi dernier, a reconnu les faits en garde à vue.
Heureusement qu'ils l'ont arrêté parce que j'aurais peut-être pu de nouveau avoir de sa visite, disons.
L'ADN du suspect a également permis de le relier à plusieurs cambriolages et à un autre viol commis en 2024. Des affaires qui pourront enfin être élucidées, espère Christine.
Ça me réconforte de me dire que ça aura servi à d'autres. Comme quoi, il ne faut pas hésiter surtout à dénoncer. C'est important pour pouvoir arrêter de tels criminels.
Le suspect, titulaire d'un passeport algérien, est en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF depuis près de 3 ans. Mais il n'avait jusqu'ici jamais été arrêté pour être expulsé.
Retour au télétravail pour les 1200 salariés du site Orange dans le quartier de Saint-Mauron à Marseille, visé par des tirs en début d'année. Le bâtiment qui se trouve à proximité d'un point de deal avait déjà fermé ses portes une première fois pour 15 jours en novembre. Sarah Knafo, 6e candidate déclarée pour la course à la mairie de Paris, l'eurodéputée Reconquête, partie d'Éric Zemmour, en a fait l'annonce hier soir sur TF1. Elle entre en concurrence avec les deux autres candidats de la droite, Thierry Mariani pour le RN et Rachida Dati pour les Républicains, avec lesquels elle se dit prête à collaborer en cas d'échec.
Je serai prête à travailler avec tous ceux qui partageront mon projet. J'espère que les Parisiens me feront confiance à moi parce que je pense vraiment avoir le meilleur programme pour Paris. Je le publierai d'ailleurs dans les tout prochains jours. Ce sera le programme le plus transparent, chiffré, rigoureux, comme j'ai appris à le faire. Mais si les Parisiens choisissaient quelqu'un d'autre, je serai tout à fait constructive pour faire gagner les idées qui sont les miennes. Et encore une fois, j'espère qu'ils me choisiront.
Et réaction dans la foulée du candidat de la gauche hors LFI, Emmanuel Grégoire, qui dénonce l'ouverture d'une alliance assumée entre la droite extrême et l'extrême droite.
7h07 sur RMC, les adieux de Saint-Tropez à Brigitte Bardot hier.
1 millier de personnes rassemblées dans la ville hier pour suivre la retransmission de la cérémonie religieuse sur 2 écrans géants, des admirateurs qui ont ensuite rejoint le cimetière marin face à la mer pour un moment d'émotion et de recueillement sur la tombe de l'actrice Anna Jojard.
À peine la tombe scellée, la foule se presse pour voir l'endroit où repose désormais Brigitte Bardot.
Je ne m'attendais pas à ça. Elle est très fleurie.
Extrêmement fleurie. Et ils n'ont pas amené tout. Hein. Elle est à son image. C'est elle qui a demandé d'avoir que des marguerites.
Des fleurs, mais aussi des portraits d'elle entourés d'animaux. Annie vient de déposer 2 cadeaux sur la dalle couleur crème.
Un écureuil et un cadre avec les animaux. Et elle qui monte les escaliers pour partir vers l'au-delà.
Au milieu des nombreux admirateurs, on trouve aussi des visiteurs à 4 pattes.
Ils sont plus légitimes que nous, aujourd'hui.
Cathy est la maîtresse de Toumi, un Malinois qu'elle a adopté à La Réunion.
Moi, j'ai connu Brigitte, j'avais 10 ans. Je suis végétarienne depuis cette époque et je suis tellement contente d'être là. Puis j'ai vu mon chien courir dans la colline pendant qu'il y avait tous les officiels qui parlaient et je trouvais que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire.
Alors après des obsèques célébrées en musique, Cathy, comme tant d'autres, espère que le combat de la star pour les animaux continuera.
Allez, merci Brigitte.
Et puis du foot ce soir avec un choc un peu spécial entre le PSG et l'OM, trophée des champions délocalisé au Koweït. Coup d'envoi 19h, c'est à vivre sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 et dans un instant on va parler de vos salaires. On va parler de vos salaires, est-ce que vous serez augmenté cette année? Plus d'augmentation individuelle, moins d'augmentation collective, c'est ce qui ressort de votre étude annuelle. Khalid Ait Mouloud, bonjour. Vous avez interrogé plus de 900 entreprises françaises et elles prévoient d'augmenter leurs salariés en moyenne de 3,1% cette année, oui, mais pas d'augmentation générale et indifférenciée. Ça c'est quasi terminé, vous nous le dites dans un instant, c'est votre parti pris. J'attends aussi vos témoignages au 32-16. Dites-nous si vous avez été augmenté, vous êtes patron, vous êtes salarié. Racontez-nous vos négociations, je vous attends au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC. On parle salaire parce qu'en 2026, les augmentations de salaire, elles se feront au mérite. C'est ce qui ressort de l'étude que vous avez menée auprès de plus de 900 entreprises françaises. Khalil Ait Mouloud, vous êtes directeur de l'activité enquête et rémunération pour le cabinet de conseil WTW. Alors oui, il y aura des augmentations cette année. En moyenne, les patrons que vous avez interrogés prévoient des augmentations de 3,1%. sauf que ce ne seront plus des augmentations générales et indifférenciées, non. Ce sera désormais au mérite de chacun individuellement.
Exact, on a effectivement ce changement de paradigme ou de tendance pour l'année 2026. D'un côté, avec des budgets d'augmentation salariale qui restent stables par rapport à l'année 2025, mais stabilité ne veut pas dire que les augmentations sont immobilisées en l'état. Reste que dans la distribution de ces budgets, on passe d'une logique de rattrapage de l'inflation, notamment avec les augmentations collectives ou générales, vers un curseur mis de manière plus significative sur les augmentations individuelles ou au mérite.
Donc, ça veut dire effectivement que c'est une autre façon d'encourager, en quelque sorte, ces salariés. Désormais, il faudra justifier individuellement, mais ce sera la carotte, quoi. Est-ce que c'est une perte de pouvoir aussi pour les syndicats ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de collectifs dans les entreprises ?
Il y a toujours du collectif dans la négociation, notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. C'est toujours une question de dialogue entre les entreprises, les employeurs et les représentants du personnel ou les syndicats, mais effectivement les entreprises vont avoir tendance à s'adapter à un contexte qui est d'un côté incertain, de l'autre côté difficile aussi d'un point de vue emploi pour concilier les deux et trouver un meilleur équilibre entre collectif et individuel.
Et vous êtes à nombreux à nous appeler au 3216 pour nous raconter justement vos négociations, nous dire comment ça se passe. Il y a Jérémy qui est chauffeur et qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Jérémy.
Bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Est-ce que vous allez être augmenté cette année ?
On a été augmenté cette année.
Ouais.
Et pas
combien
grâce à moi.
Grâce au collectif ?
Non, pas du tout. C'est un collègue qui a demandé sur le plan individuel. Et notre patron a estimé que non, il ne pouvait pas l'augmenter parce que ça ferait des disparités par rapport aux anciens. Et moi, je ne suis pas trop d'accord sur ce plan-là. En plus, mon collègue, il demandait juste un nivellement de son salaire par rapport aux autres. On a été augmenté de 12,50 à 13,30.
D'accord.
Et moi, je suis assez d'accord avec mon collègue dans le sens où, au fait, je préfère le plan individuel parce que les anciens de la boîte, en général, ils ont leur petit poste bien tranquille dans l'entreprise et ils font pas de polyvalence. Et le problème, c'est que nous, les chauffeurs chez nous, on est très axés à la polyvalence. Voilà, vous voyez, ce matin, je fais du déneigement. Cet après-midi, je vais aller livrer du granulé de bois. Demain, je vais peut-être camion, je vais faire du fioul. Et ça, le problème, on n'est pas récompensé là-dessus sur la polyvalence. Et moi, je suis plutôt sur le plan individuel que sur le plan...
Vous trouvez collectif. Que c'est à chacun de se battre aussi pour que ça marche et pour faire plus, quoi.
Ben oui, mais le problème, c'est que c'est très compliqué parce qu'on nous sort à chaque fois ce plan collectif, les anciens, ça va faire des histoires. Ça fait des histoires.
Mais vous redoutez pas l'injustice, le sentiment d'injustice parfois ?
Ben non, ça peut peut-être aussi faire bouger les anciens qui veulent pas bosser aussi. Moi, j'aimerais bien rester tranquille sur mon petit poste, faire du 6h30 midi, ouais. Reprendre à 13h et finir à 16h30 et puis rentrer chez moi. Non, nous, on a toujours quelque chose à faire et on le fait pour l'entreprise. On le fait pas pour nous sur le plan individuel. Et du coup,
je trouve ça très intéressant, même presque philosophiquement, dans l'approche aussi du travail, de la rémunération, de la motivation individuelle. Jérémy, je voudrais que Khalil puisse vous répondre là-dessus. C'est cet état d'esprit-là qui va être davantage mis en avant par les patrons désormais.
Tout à fait, c'est un sentiment qu'on peut retrouver beaucoup chez les salariés et ça oblige aussi les employeurs, un, à être très solides sur leur politique de rémunération, le rationnel qui est derrière, mais aussi sur l'histoire qui est racontée, sur le message qui est communiqué aux salariés, sur le pourquoi on attribue des augmentations individuelles ou générales, les augmentations individuelles...
Pourquoi on augmente
c'est pour
un tel et pas tel autre, par exemple, quand on entend Jérémy qui dit « Ouais, mais moi, je me donne énormément de mal, j'accepte de faire l'épeler le fioul », ça veut dire que ça justifie à ses yeux aussi d'avoir une rémunération supplémentaire par rapport à d'autres qui resteraient un peu plus tranquilles dans un boulot pépère. Est-ce que ça, c'est audible dans l'ensemble de l'entreprise ?
Aujourd'hui, c'est de plus en plus audible au sein des entreprises. Au-delà des augmentations, il y a aussi la question du travail qui est occupé, du poste qui est occupé, la question de la performance aussi qui ressort beaucoup, qui sont des facteurs qui sont bien évidemment pris en considération dans la réflexion des entreprises. C'est certainement pas toujours aussi bien perçu. Et on va avoir aussi cette question de la directive européenne sur la transparence des rémunérations qui va beaucoup plus obliger les entreprises à être claires sur qu'est-ce qu'un poste, qu'est-ce qu'une bonne performance et qu'est-ce que ma politique de rémunération.
C'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, elle va être appliquée cette année, cette directive, et elle invite à davantage de transparence. Est-ce que ça veut dire qu'on va savoir chacun qui gagne quoi dans l'entreprise ou est-ce que ce sera quand même un peu anonymisé? Quelle va être véritablement la transposition de cette directive?
Évidemment, on a des questions de protection de la confidentialité des données. Donc, ce qui est prévu dans le cadre de la directive européenne sur la transparence des rémunérations et sa transposition attendue pour juin 2026, c'est l'obligation pour les employeurs de communiquer sur un poste égal pour l'ensemble des salariés qui occupent ce poste-là, la moyenne des rémunérations qui sont appliquées. Et en différenciant d'un côté la moyenne des femmes et la moyenne des hommes, en évitant d'avoir des écarts qui ne sont pas justifiés par des critères objectifs et factuel. Donc ça, c'est des obligations qui vont entrer en vigueur très bientôt.
Et ça veut dire effectivement que les entreprises vont devoir justifier davantage de la distinction entre la rémunération des uns et des autres. Merci beaucoup hein, Khalil Haït Mouloud d'être venu nous expliquer tout cela. Donc directeur de l'activité enquête et rémunération pour le cabinet de conseil WTW. Et merci à Jérémy pour son témoignage. Comme lui, vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin, le 32-16. Il est 7h19. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, à 19h, ce soir, le PSG affronte l'OM dans le trophée des champions et ce match, il sera au Koweït.
Oui, et pour l'occasion, je vais vous raconter un des matchs les plus fous de l'histoire du football, un match rocambolesque qui s'était justement produit au Koweït.
Au Koweït en Espagne, mais c'était un France-Koweït 1982. L'histoire de ce match fou, ce sera dans un instant avec Arthur. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, ce soir, trophée des champions, l'Olympique de Marseille affronte le PSG. Mais attention, pas n'importe où, puisque ce match aura lieu à Koweït City, la capitale du Koweït.
Oui, et ça nous rappelle des souvenirs, hein, puisqu'il y a un peu plus de 40 ans, l'équipe de France avait affronté l'équipe du Koweït au cours d'un match complètement rocambolesque.
Qu'est-ce qui s'était passé de si spécial pendant ce match?
Alors, a priori, c'était une rencontre anodine. Nous sommes en 1982. Nous jouons la Coupe du Monde qui se passe en Espagne. La France affronte donc le Koweït. Un match sans intérêt, un peu plan-plan. On mène 3-1, c'est la 80e minute. Platini fait une ouverture pour Alain Giresse qui marque et aggrave le score. Ça fait 4-1. Sauf que là, les joueurs koweïtiens se mettent à protester.
Protester pour quelle raison?
Eh bien, ils s'énervent parce qu'ils disent avoir entendu un coup de sifflet depuis les tribunes. Or, ils ont cru que ce coup de sifflet venait de l'arbitre pour signaler un hors-jeu. Donc la défense du Koweït s'est évidemment arrêtée de jouer, ce qui expliquerait le but de Giresse. Les Koweïtiens ne décolèrent pas. Et là, un truc complètement fou se produit. Un homme descend des tribunes et débarque sur la pelouse.
Qui était cet homme?
Alors cet homme, c'était le cheikh Fahid Al-Ahmad Al-Sabah, qui était à la fois le frère de l'émir du Koweït et le président de la Fédération du football koweïtien. Un homme très puissant. Bref, ce cheikh va voir l'arbitre et lui aussi se met à râler. Il réclame l'annulation du but français. Il insiste, ça fait tout un drame. Et coup de théâtre, l'arbitre cède, lui obéit et annule le but.
Annule le but? Alors tu dis que ça provoque aussi un scandale.
Ah bah oui, énorme, ça ne se produit jamais. Le coach français Michel Hidalgo est hors de lui. Il se lève pour aller voir l'arbitre. Là, la police espagnole l'en empêche. Bref, c'est le drame. Finalement, les Français se font justice eux-mêmes avec un quatrième but avant la fin du match.
Mais qu'est-ce qui a pris à l'arbitre?
Ah bah, tout simplement, il a cédé à un coup de pression diplomatique, à un truc délirant. Alors je vous rassure, il sera radié à vie du corps arbitral. Quant au cheikh, il présentera ses excuses en 1990 pour se faire pardonner. Il invite en grande pompe toute l'équipe de France au Koweït pour une série de matchs amicaux. Alors c'était un séjour un peu lunaire hein, où les joueurs français auront le droit à tous les honneurs. Ils vont même s'essayer au tir à la Kalachnikov contre les boîtes de conserve et c'était oui, un peu spécial.
Un bel honneur.
Voilà, exactement. Bref, c'était une réconciliation, mais de courte durée, puisque le cheikh Al-Sabah va connaître une fin tragique. Hein. Cette même année 1990, l'armée irakienne de Saddam Hussein envahit le Koweït. C'est le début de la guerre du Golfe et le cheikh va être tué pendant un des premiers assauts.
Incroyable histoire. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Match ce soir à suivre évidemment en direct et en intégralité sur RMC à partir de 19h et donc en direct de Koweït City. C'est l'heure d'accueillir Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure, je reçois l'ancien ministre du budget, le maire de Meaux, Jean-François Copé.
Oui, le JFK français, JFC, Jean-François Copé. Et si c'était lui, le futur président? Bon, peut-être pas, mais si au futur ministre. Oui. Bon, peut-être pas non plus. Bon, en tout cas, c'est votre futur invité ce matin dans le face-à-face. C'est déjà pas mal. C'est aussi le futur maire de Meaux, puisqu'il brigue un sixième mandat. En fait, Meaux a deux traditions. Son Brie, depuis le XVIe siècle, et son Jean-François Copé à la mairie, depuis 2005. Vous savez comment on appelle les habitants de Meaux?
Les
Meldois. Les Meldois. Tu te maries là-bas, on te dit, tiens, voilà ton mari Meldois, c'est super. Que de lol. C'est Jean-François Copé le sujet. Hein.
Ah oui.
Vous reviendrez avec lui sur les dossiers chauds. Donald Trump notamment qui veut envahir le Groenland, un endroit où il fait froid et il ne se passe rien. Et qui d'autre que Jean-François Copé, qui est lui-même maire d'une ville où il fait froid et où il ne se passe rien, pour analyser la situation. On parlera aussi des agriculteurs qui s'apprêtent à bloquer le pays, mais qui est déjà à moitié bloqué par la neige. C'est con, ils vont faire l'autre moitié, je ne sais pas. D'ailleurs, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, reconnaît que l'événement neigeux a été un peu sous-évalué. Il est vice-président de la région PACA, lui. Donc la neige, il connaît pas, en fait. C'est pas son truc. Il a, j'appelle tous les automobilistes à faire preuve de vigilance en cas de... comment on appelle les confettis glacés, là.
De la neige, monsieur le ministre.
Ah, merci, Jacqueline, c'est ça, de la neige. Et ne sont autorisés à circuler que les titulaires de la première étoile. Bah oui, c'est seul... Ses seules références à l'hiver, à ce mec-là, c'est les bronzés fonds du skin. Ce matin, il a voulu dégivrer sa serrure, son voisin est arrivé.
Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
Et oui, mais il connaît pas. Alors Jean-François Copé va sortir un livre intitulé « Quand les populistes trahissent le peuple ». Parce que voilà, lui, il sait que des gens comme Maduro, par exemple, trahissent le peuple, toujours. Ça a dû le rendre fou d'écouter votre interview de Mathilde Panot, l'autre jour, à Pauline. Parce que quand Mathilde a joué à « Ni oui, ni non, ni dictateur », c'était pas simple à entendre pour Jean-François Copé. Mathilde Panot, Nicolas Maduro, c'est un dirigeant légitime, madame. Oui, mais assimilable à un dick, c'est un dicaprio vénézuélien, madame. Beau et populaire. Non, un dicta-mère. Non, pardon. Je ne répondrai pas à cette question, madame. Elle lâchera pas le morceau, hein. Jamais. En attendant, c'est Jean-François Copé à 8h30.
J'aime beaucoup votre petit jeu. Il est 7h26. On retrouve Arnaud de Manche, évidemment, tout à l'heure à 8h20. En attendant, dans un instant, c'est la météo et le journal de 7h30. Juste après le journal, le département de la Manche en vigilance rouge. Tempête Goretti qui arrive en fin de journée. Des vents jusqu'à 160 km/h attendus sur les côtes. Nous serons en direct avec un marin pêcheur. Et puis à 7h40, on suit la nouvelle mobilisation des agriculteurs dans Paris ce matin. Les tracteurs sont au pied de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, en haut des Champs-Élysées ou sur le boulevard périphérique. Ils occupent ce matin donc des lieux symboliques de la capitale. On sera en direct avec la vice-présidente de la coordination rurale. A tout de suite, 7h27.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un témoignage RMC très fort dans ce journal, celui d'une septuagénaire séquestrée et violée par son cambrioleur, un Algérien sous OQTF impliqué dans plusieurs affaires similaires. Les tracteurs de la coordination rurale sont entrés dans Paris cette nuit. D'autres sont prépositionnés aux abords du périphérique. Une journée d'action sous haute tension en perspective. Et puis quand une entreprise doit fermer ses bureaux à cause des règlements de compte liés au trafic de drogue, c'est la décision prise par l'opérateur Orange à Marseille. Les syndicats appellent carrément à déménager.
Plusieurs cambriolages ultra-violents en cours d'élucidation.
Grâce au courage d'une femme que l'on va entendre dans un instant, dont la plainte a permis d'identifier un suspect arrêté lundi dans les Yvelines et présenté à un juge hier soir, c'est la dernière victime de ce multi-récidiviste présumé, Guillaume Bier.
Oui, à la mi-décembre, dans un quartier pavillonnaire des Mureaux, une femme de 72 ans est subitement attaquée chez elle vers 19h par un homme qui la séquestre, lui dérobe ses bijoux et la viole. Rapidement, la victime donne l'alerte, mais quand les policiers comparent l'ADN trouvé sur place avec le fichier national, aucune identité n'apparaît. En revanche, ce même ADN inconnu avait déjà été relevé par le passé sur un autre viol à Canteleu en Seine-Maritime, ainsi que sur 6 cambriolages et 2 tentatives. Alors, grâce à un minutieux travail sur la téléphonie, les policiers de la brigade criminelle de Versailles identifient un suspect qui a reconnu les faits en garde à vue. Son ADN correspond bien aux traces relevées sur toutes ses affaires. Ce SDF de 32 ans, titulaire d'un passeport algérien, est en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF depuis près de 3 ans, mais n'a jamais été arrêté pour être expulsé.
Et cette arrestation est un véritable soulagement pour les victimes, notamment la dernière en date, Christine, dont l'agression mi-décembre a permis de remonter la piste de ce suspect. La septuagénaire témoigne ce matin au micro RMC de Julie Brault.
C'était quelqu'un de très violent, ça je vous le confirme. 3 semaines après, c'est toujours très, très compliqué. C'est encore très frais. Heureusement qu'ils l'ont arrêté parce que j'aurais peut-être pu de nouveau être, avoir de sa visite, disons. Et ça a permis de recouper sur plusieurs affaires. C'est vrai que ça me réconforte de me dire que ça aura servi à d'autres. Et c'est ça le plus important. Comme quoi, il ne faut pas hésiter surtout à dénoncer. C'est important pour pouvoir arrêter de tels criminels.
Témoignage RMC recueilli par Julie Brault.
7h33 sur RMC, ils l'avaient promis, ils l'ont fait.
Les agriculteurs sont entrés dans Paris cette nuit et ont investi les lieux les plus symboliques de la capitale avec une dizaine de tracteurs devant la Tour Eiffel, une cinquantaine sur les Champs-Élysées. D'autres sont prépositionnés aux abords du périphérique, notamment au niveau de la Porte d'Orléans où l'on retrouve Solène Leroux en direct ce matin pour RMC. Solène, vous êtes au milieu d'une dizaine de tracteurs et d'un important dispositif policier.
Oui, ici les lumières des gyrophares de la dizaine de camions de CRS tranchent avec le feu allumé par les agriculteurs pour se réchauffer, eux qui sont ici depuis 4 heures du matin, alors que des riverains se retrouvent bloqués par le barrage, que certains klaxonnent même en soutien. Certains agriculteurs sont allés se reposer dans leur tracteur pour récupérer de ces longues heures de voyage. Pour arriver ici, ils sont partis vers 23 heures hier, mais certains viennent de loin et sont partis dès mardi matin, comme Patrick. Il produit des fruits et légumes en Lot et Garonne. Il souhaite une mobilisation pacifique, mais n'oublie pas le but.
On ne nous entend pas à Paris, donc on s'est décidé de monter à Paris. Même si on nous a dit qu'on n'y arriverait pas, on est arrivé aujourd'hui à Paris. Ils sont bornés sur les lignes qu'ils ont, parce que eux, ils ont la parole d'évangile, et nous, on est des minables. Mais il faudrait qu'ils mettent les pieds sur terre, qu'ils viennent voir dans nos campagnes, qu'ils viennent voir la misère de nos campagnes. Parce qu'il y a des gens qui crèvent en campagne. Et c'est la grande majorité de la France aujourd'hui.
Une référence au suicide des agriculteurs qui endeuillent régulièrement la profession. L'objectif à cette heure est de récupérer des collègues coincés par des barrages policiers un peu plus au sud de Paris avant de rejoindre la capitale en métro. Mais pour aller où, le secret est bien gardé. Aucun agriculteur ne lâche le morceau.
Solène Leroux en direct de la Porte d'Orléans pour RMC. Notez que ce matin, une portion de l'autoroute A13 en direction de la Porte d'Auteuil est coupée par la mobilisation des agriculteurs. 7h35 à Marseille, les 1200 salariés d'Orange n'ont plus de bureau ce matin après la décision prise hier par leur direction de fermer les locaux du quartier de Saint-Mauron jusqu'à nouvel ordre. Et c'est la deuxième fois depuis le mois de novembre. C'est là encore à cause du trafic de drogue et de ses règlements de compte. Des impacts de balles ont été retrouvés en début de semaine sur la façade du bâtiment. Et pour les syndicats, évidemment, c'en est trop. Ils appellent l'entreprise à faire ses cartons pour de bon et à déménager. C'est ce que réclame ce délégué syndical CFE-CGC qui souhaite rester anonyme.
Il y avait déjà une peur à l'idée de venir. Depuis novembre, il y a eu des règlements de compte, il y a eu des tirs, mais c'était quand même encore à l'extérieur. Là, il y a 4 impacts de balles. Là, c'est une intrusion, en fait. C'est le bâtiment qui a été visé. Honnêtement, l'ambiance a très significativement changé. Des salariés qui ont un mélange de vraies peurs, de colère vis-à-vis de la direction et d'incompréhension, en fait. Malgré les dispositifs exceptionnels qui étaient vendus par l'entreprise, ça n'écarte pas le danger. Il ne peut pas y avoir un policier derrière chaque salarié. Mais nous, en fait, on ne demande pas plus de police, on veut juste partir en fait.
7h36, à peine la neige aura-t-elle fondu qu'elle sera chassée par le vent sur le quart nord-ouest de la France avec l'arrivée cet après-midi de la tempête Goretti. La Manche a même été placée en vigilance rouge pour la nuit prochaine avec des rafales qui pourraient atteindre jusqu'à 160 km/h sur les côtes. Et face à ces phénomènes météorologiques violents, on constate souvent une forme d'impréparation, voire même des situations complètement ubuesques. Ça a été le cas hier en région parisienne où certaines universités ont maintenu les partiels du premier semestre en dépit de l'appel à limiter les déplacements lancés par la préfecture Bérangère Bocquillon.
Et certains étudiants ont pris des risques. Amandine est étudiante en première année de licence à la Sorbonne. Elle a dû prendre sa voiture hier matin pour rejoindre la gare de Rambouillet vers Paris pour tenter de passer son partiel.
Il y a des fois où la voiture a glissé. J'étais terrorisée à l'idée de conduire sur la neige. Je le voyais, de toute façon, il n'y avait personne sur la route. Et du coup, finalement, il n'y avait pas de train. Donc j'ai juste fait demi-tour et je suis rentrée chez moi.
Résultat, Amandine va devoir passer au rattrapage comme plusieurs autres étudiants de sa licence. Pour elle, c'est une injustice.
Je vais forcément passer au rattrapage et ça fout un petit peu en l'air mon année alors que c'est pas vraiment de ma faute puisque c'est juste la météo.
Plusieurs étudiants se sont mobilisés pour leurs camarades coincés par la neige. Hier matin, avant son examen, Cassandre a tenté d'aller négocier un report auprès de la direction de l'université de Cergy et là, surprise.
On a d'abord essayé de parler avec l'administration, tout était éteint, tout était vide, c'est-à-dire que personne n'était là. Sûrement, du coup, en raison des conditions météorologiques.
Aucune université n'a répondu à nos sollicitations.
Eux ont dû faire des milliers de kilomètres pour disputer leur classique. Les joueurs du PSG et de l'Olympique de Marseille s'affronteront ce soir au Koweït pour le trophée des champions. Match à 19h à vivre évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, c'est à Cagnes-sur-Mer.
À 13h55 avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC comme chaque jour. Aujourd'hui, le favori, c'est le numéro 3, Captain du Liamon. L'outsider, c'est le 14, Xar.
C'était le journal d'Élise Dangean. Et Élise, vous en parliez, ça souffle énormément et notamment sur la Manche qui a basculé en vigilance rouge et à 7h38 on est en ligne avec Patrice Cauchois. Bonjour, vous êtes marin pêcheur à Cherbourg. Ça va souffler très fort toute la journée et en particulier ce soir jusqu'à 160 km/h. Département donc placé depuis 6h ce matin en vigilance rouge. J'imagine que vous ne sortez pas évidemment aujourd'hui hein.
Eh ben on va sortir un petit peu ce matin pour mettre le matériel à l'abri. Là, il y a en fait entre le coup de vent qu'il y a eu hier et la tempête de ce soir, on a un petit creux de 3h là pour travailler aujourd'hui.
Donc pour mettre le matériel à l'abri, mais non pas pour bosser quoi.
Bah en fait on va travailler parce qu'on va relever quelques filières de casiers qui sont un peu trop près de la côte et comme on attend des grosses vagues, on va être obligé de mettre tout notre matériel à l'abri pour pas le perdre.
Quoi. C'est des casiers de quoi ?
Des casiers à homard.
Des casiers à homard, Patrice. Ce vent, comment est-ce que vous allez gérer ensuite le manque à gagner potentiel ?
Eh ben, on sortira peut-être ce week-end, alors que le week-end, d'habitude, on travaille pas. Mais bon, là, c'est compliqué encore ce week-end, donc ça sera peut-être que lundi qu'on le fait.
Vous avez quand même l'impression qu'à ce point, et de manière si longue, c'est-à-dire que là, vraiment, on a l'impression que la France traverse des épisodes de plus en plus compliqués, là, depuis 8 jours. Comment est-ce que vous voyez la perspective? Est-ce que ce genre de situation, à ce moment-là, ça vous paraît normal, classique, ou assez exceptionnel?
Eh ben, on a l'impression que d'année en année, il y a de plus en plus de coups de vent, tout le monde rachète des bateaux un peu plus gros pour faire plus de mauvais temps, parce que ça devient de plus en plus dur avec les années.
Vous avez été obligé vous-même d'adapter le matériel?
Oui, tout à fait. J'ai racheté un bateau plus gros il y a 2 ans là, pour pouvoir faire un peu plus de mauvais temps, parce que ça se durcit au fur et à mesure des années. Les coups de vent sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents.
Vous êtes aidé pour ça? Quand vous êtes obligé d'acheter un bateau plus gros, plus cher, j'imagine.
Non, on n'a pas d'aide quand on achète un bateau plus gros. On a une aide quand on se met à notre compte au début en tant que jeune pêcheur, mais après on n'a plus d'aide.
Il y en a encore assez des pêcheurs autour de vous?
Ouais, il y en a de moins en moins. Mmh. Ça devient très très compliqué la ressource. La ressource se raréfie, ça devient très très compliqué.
Et pour vous, c'est dû plutôt aux ressources qui se raréfient qu'aux difficultés du métier?
Oh bah, c'est les deux. Mmh. C'est un métier qui attire plus vraiment les jeunes parce qu'il est dur. Il y a le froid, il y a les coups de vent, des mauvaises conditions de travail. Donc on a du mal maintenant à trouver des jeunes qui sont intéressés par ce métier.
Et il y en a qui vous écoutent. Vous l'aimez, vous, votre métier? Qu'est-ce que vous leur dites?
ouais, c'est un métier passion. Hein.
Ouais, j'imagine. Et donc vous leur dites, vous n'avez jamais regretté?
Non, jamais.
Jamais regretté. Bon courage en tout cas, soyez extrêmement prudent. Soyez extrêmement prudent, Patrice, donc en direct de la Manche. 3 heures pour aller ramener les casiers à homard, mais faire attention effectivement avant que ça ne souffle davantage. Je vous rappelle donc que la Manche est placée en vigilance rouge et qu'une grande partie de l'Ouest est en vigilance orange avec des vents qui vont souffler jusqu'à 160 km/h ce soir. Donc avec la tempête qui arrive, je vous laisse donc effectivement reprendre le chemin du travail. 7h41 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Ils avaient promis qu'ils rentreraient dans Paris et même si les autorités le leur avaient interdit, ils l'ont fait. Les agriculteurs sont donc au pied de la Tour Eiffel, en haut de l'avenue des Champs-Élysées, sur le boulevard périphérique. Karine Duc sera en direct avec nous dans un instant, coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. L'épidémie de dermatose, mais aussi le Mercosur. On va entendre sa colère dans un instant. Il est 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h45 sur RMC et à la télévision sur RMC Story. Vous le verrez pour ceux qui nous regardent à la télévision, ces images des tracteurs qui sont rentrés en effet dans Paris. Et ça faisait quelques temps que les interdictions se multipliaient, mais vous aviez promis que vous iriez et vous avez donc réussi ce coup de force. Karine Duc, bonjour. Vous êtes la coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, mais vous êtes au moment où on se parle, où ça? Au pied de l'Arc de Triomphe?
Oui, alors déjà je suis effectivement au pied de l'Arc de Triomphe avec pas mal d'agriculteurs, une soixantaine d'agriculteurs, des tracteurs, voilà, autour de nous. Je suis plus coprésidente de la coordination rurale de Lot-et-Garonne, je suis présidente de la chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Et donc à ce titre-là, modestement, j'essaie de venir manifester la détresse des agriculteurs de l'ensemble du territoire, mais aussi et surtout de l'ensemble des agriculteurs de mon territoire, du Lot-et-Garonne. Donc, je suis là parce que la situation est extrêmement, des agriculteurs est extrêmement dégradée. Et malheureusement, on se serait bien passé de faire des périples de plusieurs jours avec une fatigue intense. Mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la situation qu'on avait prédit il y a 2 ans, on y est en plein. Les agriculteurs sont dans des grosses difficultés économiques pour bon nombre d'entre eux. Et écoutez, si on veut à un moment donné ne pas subir le déclin et accompagner les agriculteurs à avoir un cap plus serein.
En fait, c'est cette souffrance effectivement que vous êtes nombreux à exprimer. Vous l'exprimez donc ce matin, depuis 5h du matin, vous êtes rentré effectivement dans Paris, vous êtes arrivé notamment sous l'Arc de Triomphe. Il y a une partie de vos camarades qui sont arrivés également sur l'A13. L'A13 qui, au moment où on se parle, et c'est important pour ceux qui nous écoutent dans leur voiture, l'A13 en direction de Paris est coupée, elle est coupée dans le sens province-Paris, donc l'A13, l'autoroute A13. Il y a également un dépôt de carburant qui est bloqué près de Bordeaux. La colère va monter tout au long de la journée, Karine Duc.
Bien entendu. Il faut absolument que ça suffit, les faux-semblants, ça suffit de nous balader des belles lettres pour nous dire, pour nous flatter et pour derrière nous assassiner. Laisser sans arrêt des normes franco-françaises empoisonner nos situations économiques, ça suffit. Maintenant, il faut véritablement qu'on cesse de nous balader et qu'on reparte avec des éléments réels et concrets et actés pour nos fermes. Les projets de loi qui n'aboutissent que très peu ou qui ne sont
quand
pas
vous dites,
appliqués.
Quand vous parlez de cette question des normes franco-françaises, quand vous entendez depuis 2 jours la ministre de l'Agriculture qui finit par vous lâcher du lest à la fois sur ce qu'elle appelle l'interdiction des produits, notamment d'Amérique du Sud, qui viendraient avec des restes de pesticides, quand elle dit aussi hier que finalement il n'y aura pas cette fameuse taxe carbone qui fait partie aussi des nouvelles idées, c'est-à-dire que les engrais que vous importiez depuis l'extérieur de l'Union européenne, qui sont la majorité, qui représente la majorité des engrais, hein, de fait, aurait été extrêmement et lourdement taxée. Elle promet de ne pas le faire, mais ça ne vous apaise pas.
Mais bien sûr que non, c'est que dalle. Ce sont des choses qui ne vont pas bouleverser et remettre de la santé économique et financière dans les structures. À la marge, je veux dire, effectivement, encore heureux qu'elle ait pu se battre sur ce genre de points. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de ministre de l'Agriculture, parce qu'elle serait incapable de faire quoi que ce soit. Donc maintenant, il faut remettre une page blanche et enlever tout ce qui nous entrave et nous contraint en permanence, mais ce qui est déjà franco-français, puisque c'est à sa main, c'est à la main de nos gouvernants qui sont ici à Paris, c'est pour ça qu'on est là. Et ensuite, on s'occupera de...
Au fond, pour vous, le Mercosur n'est que l'étincelle de plus sur un monde agricole qui ne supporte plus les normes françaises. C'est ce que vous nous dites. La question n'est pas européenne à vos yeux, elle est française.
Au-delà du Mercosur, le Mercosur est quasiment acté. Ils sont en train de nous balader, à le renvoyer d'une semaine, 2 semaines. Mais qu'est-ce que c'est cette hypocrisie, encore une fois? C'est vraiment... le Mercosur représente et cristallise tout ce qui ne va pas, faire venir de la viande de l'autre bout de la planète, alors que nous, on ne peut pas la faire ici. La filière viande est en grosse difficulté par les épizooties notamment, les fruits et légumes également, mais c'est invraisemblable que ce genre de mesures qu'ils puissent encore penser, vu la dégradation que nous avons dans nos exploitations agricoles, qu'on puisse se penser que ce genre de choses puisse nous réconcilier et nous ramener dans nos fermes. Et on... ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe chez nous, ils n'ont pas conscience de l'urgence de la situation, et ils se moquent de nous. Franchement, c'est vécu comme une provocation, et ce sont des petites miettes qu'on jette par terre, et prenez-les et rentrez chez vous.
Et on entend bien, vous êtes prête à rester aujourd'hui, demain, s'il le faut.
Mais on restera, de toute façon, on a passé des jours sur les routes, donc on restera le temps qu'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus, on est là et il n'y a pas de problème. Moi, je veux repartir dans mon département avec tous mes jeunes et des moins jeunes qui m'accompagnent, avec vraiment des solutions. Ça suffit.
Vous ne repartirez qu'avec des solutions et des solutions concrètes, on l'a bien entendu. Karine Duc, merci d'avoir été en direct avec nous. Vous étiez donc avec cette trentaine de tracteurs qui sont, au moment où on se parle, sous l'Arc de Triomphe, le rond-point de l'Arc de Triomphe qui est entièrement fermé. Il y a également des agriculteurs au pied de la Tour Eiffel sur le périphérique parisien. L'autoroute A13 est coupée en direction de Paris, et un dépôt de carburant dans la région de Bordeaux est, au moment où l'on se parle, bloqué également. On continuera à vous informer dès le journal de 8h sur tous ces points de blocage. 7h51 dans un instant, c'est la voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Pauline.
En pleine Coupe d'Afrique des Nations, vous avez un message ce matin. Oui, on peut soutenir à la fois la France et l'Algérie.
Oui, je pense qu'on peut déclarer avec la même fougue et 1 et 2 et 3-0 et 1-2-3.
Et vous nous le dites dans un instant. À tout de suite, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Ah bah tiens.
Dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflot. Mais d'abord le bonus, Mathieu. On parle géopolitique, ouais. Groenland, avec la chanteuse Björk.
La chanteuse islandaise, pour ceux qui l'auraient oublié. L'Islande, pays voisin du Groenland, convoité par Trump, vous le savez, la Maison Blanche étudie activement l'achat du territoire sans exclure l'option militaire. Eh bien, Björk se mêle au débat et elle vient soutenir les Groenlandais. Elle vient même les encourager. La chanteuse appelle publiquement les Groenlandais à déclarer leur indépendance du Danemark. Björk, qui publie une tribune sur Instagram, je cite, « Bonne chance à tous les Groenlandais dans leur lutte pour l'indépendance. Il faut savoir que l'Islande, je ne le savais pas, elle-même était comme le Groenland sous domination danoise jusqu'en 1944. La possibilité que les Groenlandais puissent passer d'un colonisateur cruel à un autre est trop brutale pour même l'envisager. » Voilà ce qu'écrit Björk cette nuit sur Instagram.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
7h54 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Voix de gauche ce matin, Cécile Duflot. Bonjour Cécile, vous vous intéressez à la Coupe d'Afrique des Nations ce matin. Et votre message, c'est qu'on peut à la fois aimer la France et l'Algérie.
Mais la preuve par la famille Zidane et par Zinedine Zidane, qui était tellement ému et heureux de la qualification de l'équipe d'Algérie. Et pourquoi ça me fait plaisir? Parce qu'on ne peut pas dire autre chose que Zidane, qui est le héros intergalactique de l'équipe de France, celui à qui on doit la Coupe du Monde, celui dont certains rêvent, dont beaucoup rêvent de le voir devenir sélectionneur de l'équipe de France. Et donc, il s'est tout autant réjoui, il a été ému jusqu'aux larmes par la victoire de l'équipe d'Algérie, peut-être aussi par celle de son fils, puisque son fils est gardien de but de cette équipe, après avoir été dans l'équipe de France des moins de 18 ans. Et je peux vous dire quand même que cette joie-là, elle fait plaisir à voir en Algérie, mais aussi en France, où cette équipe a beaucoup de supporters.
Est-ce qu'il n'y a pas un reproche de conflit de loyauté? C'est parfois reproché, en tout cas, aux binationaux.
Oui, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que je les ai lus. Et la réponse d'une fan de foot, et de Zidane d'ailleurs, très connue, qui s'appelle Mel Rabedia, elle le dit avec des mots très simples. Elle dit que son rapport à la sélection française, c'est le même que son rapport à la sélection algérienne ou à l'OM. C'est ses équipes de cœur. Elle est heureuse quand elle gagne, elle est triste quand elle perd. Et d'ailleurs, elle a réalisé un très joli épisode de sa série Miskina la pauvre sur un match France-Algérie que je vous conseille de regarder. Mais il y a aussi Gad Elmaleh qui, lui, a dit qu'il a suivi tous les matchs du Mondial dans lequel l'équipe du Maroc a surperformé. C'était une performance historique avec ses fils qui avaient un maillot du Maroc à Monaco. Mais je peux aussi vous parler d'une supportrice absolument acharnée de l'équipe de France que j'ai vue verser une larme quand elle a appris la qualification extraordinaire de l'équipe du Cap-Vert en Coupe du Monde.
Et justement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on supporte deux équipes et qu'elles jouent l'une contre l'autre?
Alors ça, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en souviennent. En France, en 2000, en finale de l'Euro, le match entre la France et l'Italie, il y avait des pères pour l'Italie, des fils pour la France, et les uns ont consolé les autres et réciproquement. Et ça, ça dit aussi beaucoup de ce qu'est notre pays. Mais il y a un très grand sportif, il s'appelle Tony Yoka. Il a été champion du monde, champion olympique, pardon, français de boxe poids lourd à Rio en 2016. Et il dit que ça lui permet de trouver l'apaisement parce qu'il aime le Congo autant que la France. Et il dit ces mots simples, je ne veux et je ne peux pas choisir entre les deux. Et si un jour il y a un match France-Congo, je serai content, quoi qu'il arrive, car là, je ne pourrai pas perdre ce match.
Oui, c'est possible, un match où on ne perd pas?
Ben, visiblement, c'est possible, parce que ces citations proviennent d'une super série que le journal Le Parisien a consacrée à des gens qui racontent leur canne à eux, ma canne à moi, et je vous recommande sa lecture, parce que ces papiers racontent très joliment ce qu'est la France aujourd'hui. Vous l'avez compris, il y a plein de choses qui se jouent dans le sport. Il y a évidemment des aventures sportives, mais il y a aussi souvent beaucoup de la politique, et je trouve que cet attachement à une équipe nationale ou à plusieurs dit beaucoup de ce que nous sommes. Donc, je ne suis pas une spécialiste de sport, et je le dis très modestement sur une chaîne avec de grands, grands spécialistes du foot. Mais je pense qu'il y a un spécialiste du foot qui aurait pu parler de tout ça très, très bien. Il s'appelle Christophe Glaise. C'est un passionné, un amoureux du foot et du foot africain. Il est emprisonné en Algérie et je souhaite vraiment très fort que tous ceux, célèbres ou non, qui attendent impatiemment le match de samedi, parlent de lui, agissent pour lui et œuvrent à sa libération. Pour qu'on puisse tous dire le cœur très léger, 1, 2, 3, vive l'Algérie.
Et qu'on puisse effectivement espérer sa libération, son retour. Vous espérez donc que, y compris les Zidane eux-mêmes, puissent l'exprimer. Merci Cécile Duflo pour évidemment votre voix de gauche ce matin. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant sur RMC, la météo et le journal, à la une du journal de 8h. Ces blocages désormais de ces agriculteurs, blocages à l'intérieur de Paris, les tracteurs qui sont au pied de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe, mais aussi la 13 bloquée, un dépôt de carburant dans la région de Bordeaux. On fait le point dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.